Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
La boule de cristal, le céleri rave, cette petite merveille, j'adore vraiment. Et j'ai toujours un petit faible pour le céleri rémoulade, où on mettait un petit peu de moutarde dans la mayonnaise.
Je trouve que c'est intéressant d'aller chercher le céleri parce que c'est un légume assez complexe, c'est pas un légume passe-partout, c'est pas un légume qu'on aime, c'est une vraie prise de risque, je trouve.
Et là, nous allons faire un velouté de céleri chaud avec cette petite pointe de moutarde.
Alors là, on va commencer la recette, on va faire comme un risotto avec le céleri.
Et c'est un céleri violet de Tours, c'est un céleri branche. Et il a ses côtes pourpres et la feuille est consommable également et très très douce.
Je déteste le céleri.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Qui n'aime pas le céleri? Bah d'abord, il y a Hélène Darroz qui revendiquait encore dans le premier épisode de la 13e saison de Top Chef ce mercredi sa détestation du céleri. Mais vous êtes sans doute plusieurs à lever la main derrière votre poste de radio. Et oui, le céleri n'a pas que des amis. Il a du goût et du tempérament. Mais on va voir qu'il sait se faire aimer quand il est bien cuisiné. Élancé, vert et aérien, c'est le céleri branche. Gros comme un ballon de foot, palo et souterrain, c'est le céleri rave. On cultive et on cuisine le céleri, ou plutôt les céleris, avec nos deux invités du jour. À commencer par Xavier Mathias, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, on le sait, le monsieur légumes dans la bande dont on va déguster, expert en maraîchage, formateur en permaculture, nombreux livres sur les plantes potagères, et comme à votre habitude, vous êtes arrivé les bras chargés de la famille céleri.
Voilà, oui, elle est immense, hein, la famille du céleri, mais de toute façon, toutes les familles potagères sont immenses.
Absolument, mais il y a des boules, il y a des tiges, il y a plein de choses que l'on va expliquer et déguster ensemble, et puis on a le plaisir de recevoir, je crois que c'est sa première, si, dont on va déguster, quoique on avait eu, il y a quelque temps, une super belle recette de cake, de gâteau aux pommes, signée Marine Gora, bonjour.
Bonjour.
Mais là, il sera moins question de pommes que de céleri avec vous. Vous avez fondé Gramme, un coffee shop gastronomique rue des Archives, Paris 3e, avec Romain Tellier. Et on doit vous souhaiter aujourd'hui pile un très joyeux anniversaire. Pourquoi, Marine?
Ben parce qu'on fête nos 3 ans d'existence.
Mais 3 ans pile.
Absolument.
Gramme a ouvert le 20 février 2019. Ça n'a pas échappé à Elvira qui connaît très bien cette adresse. Et nous sommes le 20 février 2023. Ça fait 3 ans. Et ben joyeux anniversaire. D'autant qu'un heureux événement va arriver puisqu'une deuxième adresse va bientôt voir le jour. Je crois qu'on sera du côté du 11e.
Absolument, ouais.
C'est prévu pour quand?
Pour cet été.
Parfait. Et vous signez également avec Romain Tellier, Gramme, manuel d'une cuisine parisienne où l'on retrouve quelques-unes de vos recettes cultes chez First Edition. C'est un très joli livre, très bien fait, un très bel objet contenant de formidables recettes. Et il y a les très belles photographies, notamment signées The Social Food. Absolument. Voilà. Dans les fauteuils des chroniqueurs, je demande aujourd'hui Elvira Masson et Antoine Gerbel. Bonjour les amis.
Bonjour tout le monde.
Bonjour à tous.
Elvira.
Skogenröra.
Ça y est, elle a lâché une expression suédoise.
Je suis très en forme.
Ah, mais j'aime
et
beaucoup.
Et ça ne veut pas dire céleri en suédois.
J'aime beaucoup Elvira quand elle lâche des noms suédois. Redites.
Skogenröra.
Ah, on verra si des auditeurs ont la solution des jeux. En tout cas, on va le savoir dans le courant de cette émission. Antoine.
Alors aujourd'hui, je vais passer à la rémoulade. Un antique cépage blanc languedocien.
Très bien, qui pourrait d'ailleurs s'accorder avec la famille céleri? C'est ce qu'on va voir. Si vous voulez mettre votre grain de sel dans notre émission, envoyez-nous vos remarques ou vos questions sur notre mail onvadéguster@radiofrance.com ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Tous les contenus de l'émission, coup de cœur, recettes, podcasts, sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Allez, juste avant de causer céleri, je vous propose un autre coup de cœur végétal, mais il est tropical et pimenté celui-ci. Allez, vous l'avez devant vous, sous vos micros, vous pouvez le croquer sans crainte. Ici. Alors ?
C'est pas un piège, hein ?
Non, allez-y.
J'ai peur. Ouais.
Alors, sensation ?
C'est doux.
Ah ouais. Ouais. C'est doux, mais ça a quand même du goût.
Ça a beaucoup de goût.
Marine ?
C'est fruité, poivronné,
fruité.
Ouais, sucré.
Fruité. C'est fruité, on lui trouve souvent d'ailleurs...
C'est pimenté sans le feu.
Oui. C'est ça.
Eh bien, vous avez
piment
tout.
Piment doux.
Ça a le goût et la saveur du piment, sans en avoir la force. Mmh. Absolument. C'est incroyable. Extrêmement aromatique. Quand vous parlez de fruité, La personne qui m'a envoyé ça me dit que ça a vraiment des goûts d'abricot et de mangue. Et il est vrai que c'est un goût assez étonnant.
Ouais, c'est très bon.
Qu'est-ce que ça pourrait être, Xavier ?
Alors donc, ça c'est un petit piment.
Ça y est, le mot est lâché.
Et un petit piment doux. D'ailleurs, ça, mais qui est doux. Mais en fait, je ne sais pas comment le définir en fait. Parce qu'on sent que la force est là. On sent qu'elle n'est pas loin. Ça fait une petite frayeur. Et hop là, ça
une force tranquille
tout de suite.
Quoi.
Ouais,
bravo, bien dit.
Ça persiste en bouche. Hein.
Ouais. Oui,
c'est très,
là,
très aromatique et très bon. Et d'ailleurs, c'est tellement expressif que ça parfume beaucoup une certaine cuisine. Comment vous, qu'est-ce que ce pourrait être à votre avis ?
C'est un piment des Antilles ou c'est un piment d'ailleurs ?
Non, c'est un piment, alors des Antilles, je ne sais pas s'il est vraiment originaire des Antilles, en tout cas il est très utilisé dans nos Antilles françaises.
Le piment végé ?
Bravo.
C'est ça ?
De son nom complet ?
Piment végétarien.
Le piment végétarien, drôle de nom pour signifier effectivement ce
piment. Mais c'est le seul piment doux en fait.
Voilà, il a, exactement, mais alors il est très utilisé aux Antilles et principalement en Martinique pour apporter un parfum fabuleux aux acras de morue, aux vinaigrettes, aux courbouillons de poisson, aux marinades. Et c'est un piment que je n'ai pas du tout rapporté de Fort-de-France, mais il est, figurez-vous, cultivé dans les Bouches-du-Rhône. C'est Caroline et Jean-Yves Francard qui sont maraîchers à Oreille. C'est un petit village sur le versant méridional des Alpilles. Ils sont dans une ferme bio baptisée Les Fioles. Et ben, ils m'ont fait la gentillesse de m'envoyer ce petit colis avec ces piments. Et visiblement, ce couple de passionnés eh bien, plante beaucoup de plantes exotiques, justement, qui n'ont pas tant de mal à s'acclimater dans leur territoire. Alors là, il y a évidemment cet emblème de la cuisine méditerranéenne. Eux, ils le cisèlent pour parfumer une salade de pommes de terre et même une ratatouille. Tiens, très intéressant pour lui apporter un petit accent tropical. Ils cultivent également en agriculture biologique des piments nettement plus vicieux, comme le célèbre Tabasco. Beaucoup d'herbes aromatiques, comme la citronnelle de Madagascar. Voilà. Alors pour le piment, le gros de la saison, c'est l'été, et particulièrement septembre, mais ils ont encore des piments chez eux, et on peut d'ailleurs s'en procurer. Marine Gora, je sais que le piment, vous l'utilisez quand même pas mal. Il y a d'ailleurs, dans votre livre, quelques recettes de kimchi, ce fameux chou pimenté et lacto-fermenté d'origine coréenne.
Oui.
Vous êtes familière du piment ?
Un petit peu, alors j'aime beaucoup l'utiliser. Alors, moi, personnellement, je suis quand même assez... timide lorsque ça pique un peu trop.
D'accord.
Mais j'aime beaucoup l'utiliser. On fait aussi une chili jam maison avec des
chili
jalapenos.
Chili jam, c'est vraiment la confiture de piment.
Exactement. Voilà. Du coup, il y a un petit côté un peu vinaigré et sucré qui est plus intéressant quand on est un peu novice.
Très bien. Ouais. Et bah, je vais les offrir mes petits piments végétariens à notre cher Xavier. Je sais ce qu'il va en faire.
Ah oui, avec plaisir parce que là, les graines sont dedans, donc on va pouvoir le semer.
Ça va bien pousser en Touraine.
Oui.
Ah bah okay, oui. Il fait tout pousser. Et de façon la plus naturelle.
Alors, par contre, ça, on y fait gaffe. Non, pour être sérieux, effectivement, pour ce qui est piment et poivron. D'ailleurs, ce qui est un peu absurde dans le mot poivron, il dérive du mot poivre. Alors que c'est les piments doux. Donc là, qu'est-ce que c'est piment poivron ? Je ne sais pas trop.
C'est ça.
En fait, néanmoins, il vaut en Touraine, il est plus prudent de les cultiver sous tunnel, sous abri froid.
Exactement.
Parce que c'est quand même assez tardif comme mûrissement pour nous.
Voilà, les piments végétariens de Caroline et Jean-Yves Francard, la ferme et le gîte, les fioles. Et d'ailleurs, leurs piments et leurs légumes biologiques, on peut les retrouver dans les magasins Biocoop, dans pas mal de Biocoop en France, dans la très belle épicerie La Récolte à Paris, mais aussi beaucoup plus localement, dans leur espace de vente direct à la ferme. Ils proposent également au cœur du panier de bienvenue offert aux familles, parce qu'ils ont également un gîte paysan qui s'appelle Les Fioles. Ils font partie du réseau Accueil Paysan. Et ben ils mettent comme ça quelques petits piments pour égayer et colorer la cuisine des autres. Voilà, le gîte Les Fioles à Oreille, à 20 minutes en voiture, au sud-est de Saint-Rémy-de-Provence. À la console pour réaliser cette émission en direct, Laurent Thomas, Laurent Baudouin, Nadia Chougui et Djoubaka, pour nous mettre les mâchoires en fête, a choisi Kingdom de Joy Crooks. Bon dimanche sur France Inter.
Use a lick of paint to change a color before they send us back across the water. Think I got a neighbor that's been feeling blue, but they won't stand down no matter what you say or do. How do you learn to love if you're not taught to? How do you dream of freedoms on a curfew, paying the price to live in our skin?
picking up the euros at the station, visiting the bank for bread and butter. Don't want to see no doctor when we suffer. Think I got a neighbor that's been feeling blue, but maybe that's a symptom. Fucking with a kingdom that never fought for you.
Je ne peux m'empêcher, quand au moment de récolter mes céleris raves, je les vois sagement alignés, leurs grosses bouilles à ras du sol, un toupet de cheveux verts que le froid a mis à mal émergeant à grand-peine du dessus de leur front plissé, de leur rappeler combien ils ont été pénibles, mais vraiment pénibles à cultiver. Enfin qu'ils soient pardonnés, puisque riches de cette apigénine reconnue aphrodisiaque pour les hommes, ils sont les héros de cet ancien dicton. Si la femme savait ce que le céleri fait à l'homme, elle irait en chercher de Paris jusqu'à Rome. Voilà, je voulais vous faire déguster en préambule la très jolie plume de Xavier Mathias. Plume toujours alerte et prime sautière. C'était un extrait de La vie érotique de mon potager aux éditions Terre Vivante. Oui, car les légumes ont aussi une vie sexuelle intense et nous font vivre parfois une vie sexuelle relativement intense. On apprend plusieurs choses dans ce petit texte sur le céleri rave, autrement appelé d'ailleurs céleri boule. Hein. Ça, on va le voir ensemble. D'abord, vous nous dites qu'ils sont compliqués à cultiver. Pourquoi, Xavier Mathias, le céleri est-il un légume capricieux?
Ah oui, c'est un pénible. Mais pas, tout simplement parce que il vient d'une plante spontanée des marais, la hache des marais, à pas confondre avec la hache des montagnes, la livèche, qui, d'un point de vue botanique, est assez éloignée. Hein. C'est Apium graveolens, Var graveolens, pour notre hache des marais, et c'est Levisticum officinale pour notre livèche. Par contre, les deux ont un parfum de céleri assez marqué.
Ah oui.
Ce qui fait que on confond souvent et on pense que la livèche, l'âche des montagnes, est à l'origine de nos céleris. Et non, nos céleris sont originaires des marais, en fait. Et ils ont gardé des souvenirs de ces conditions luxueuses d'existence. Donc, ils demandent des sols riches en humus, maintenus frais. C'est vraiment, ça paraît paradoxal, hein, quand on les voit. Mais c'est les divas du potager.
Ils ont besoin du coup d'humidité aussi.
Ah, ils ont besoin d'humidité. Alors il y avait plein d'astuces. Hein. Céleri branche, céleri rave, hein, puisqu'ils ont la même origine. On pouvait les cultiver dans des tranchées carrément, qu'on détrempait régulièrement, ou on pouvait aussi faire des saignées autour de chaque céleri et on arrosait dans la saignée pour la remplir d'eau et qu'il y ait une diffusion lente. Donc l'idée, c'est de retrouver un petit peu les conditions des marais pour les cultiver. C'est pas du tout simple au potager et à plus forte raison quand on fait du maraîchage. Donc un stress hydrique et vous aurez le fameux cœur noir.
De quoi s'agit-il?
Alors c'est une affection très fréquente chez les céleris qui est liée à une carence en calcium en fait et souvent en lien direct avec un manque d'eau à un moment. Le piège, c'est que de l'extérieur, oui, des spécialistes peuvent le voir, moi je le vois pas. Hein,
ça nous arrive en effet, en coupant en deux de temps en temps un céleri, ça vous arrive, Marine Gouin?
Ouais, complètement, ouais.
D'avoir soit un cœur noir,
oui,
soit parfois aussi des trous ou des crevasses.
Et oui, ah oui.
Voilà.
Et là, ça veut dire quoi? Plus d'amertume?
Alors, il a, au niveau de la texture, il est moins agréable. Il est plus spongieux, ouais, je trouve. Après, moi, je vais manger du côté des producteurs. Quand il y a un cœur noir ou quand il est un peu creux, comme on les vend au poids, les clients n'ont pas acheté le vide et le creux. Et donc, normalement, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à se dédouaner. Néanmoins, voilà, au maximum, on essaie de bien tenir une irrigation régulière de façon à éviter ce cœur noir.
En préparant cette émission, Xavier, vous m'avez envoyé quelques chiffres intéressant sur la production de céleri en France. Alors d'abord, le céleri branche, c'est 14 000 tonnes et ça se passe plutôt du côté du sud de la France, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Rhône-Alpes. Et la production de céleri rave, elle, c'est plutôt au nord, pour caricaturer, région Bretagne, Champagne-Ardenne, Pays de la Loire. Il y a donc une espèce de clivage géographique entre le branche au sud, le nord, le rave au nord.
Voilà, c'est exactement, mais c'est le même clivage qu'on retrouve dans l'histoire de ces deux céleris. En fait, même si, comme d'habitude, il y aurait tendance à dire qu'ils sont passés par l'Italie tous les deux pour arriver chez nous. Donc, on reprend cette plante, la hache des marais, et on obtient par sélection une qui a des pétioles qui sont vraiment surdimensionnées et l'autre qui a une partie supérieure de la racine plus les pétioles surdimensionnées au point de donner la rave.
Alors la rave est... qui est un tubercule.
Alors qui est une tubérisation.
D'accord. Voilà,
c'est un épaississement. Donc qui est en fait aux deux tiers aérien. Il y a très très peu qui est enterré chez les céleri raves. Et donc voilà, ils voyagent et on retrouve encore la même différence en fait. Les céleri raves ont été beaucoup plus développés en Europe de l'Est et les céleri branches beaucoup plus en Europe méridionale, mais comme à l'origine.
Et le céleri branche est d'ailleurs devenu une plante de la cuisine italienne, Sedano, absolument emblématique. D'ailleurs, il y a une étymologie italienne du mot céleri.
Alors, ça vient, c'est une déformation du lombard, en fait. Céleri, céleni. Voilà, faut savoir que tout ça est assez complexe en fait. Je vous ai amené une petite plante là qui s'appelle le masseron et le masseron était probablement aussi appelé sous le même nom. Voilà, il a ce côté ombellifère forte qu'on peut retrouver. Et le masseron, vous le voyez, il est endémique.
Je viens de croquer une plante.
Un ancêtre du céleri.
Alors pas vraiment, mais en tout cas dans les textes, il est difficile de distinguer qui
Oula,
du
c'est
céleri.
Pas vrai, hein.
Qui du masseron est appelé. Ouais, c'est étonnant hein, comme plante.
Donc pour résumer, céleri rave, céleri branche appartiennent tous les deux à la même famille, le même genre.
Mais voilà.
Comme le persil, le fenouil, le persil, le fenouil, la carotte, ça c'est la même famille botanique.
C'est des ombellifères. Ouais.
Et c'est encore à nos amis italiens effectivement que l'on doit ces légumes. Ça a été les génies de la sélection végétale.
Ah, ça faut bien le reconnaître, oui.
C'est ça. Marine Gora, question vraiment piège, attention. Mm-hmm. Comment vous définiriez, si on commence par le céleri rave? Donc cette grosse boule, Alain Passard, on l'entendait en accroche, le comparer à une boule de cristal. Le goût du céleri.
Le goût du céleri.
Ce qui fait qu'il est clivant d'ailleurs.
Ça peut être assez écœurant quand même. Il y a quand même cette umami qu'on retrouve très facilement. Après, c'est une odeur aussi qui reste beaucoup sur les doigts et c'est quelque chose qui peut très vite s'imprégner un petit peu partout.
Très épicé.
Très épicé, ouais.
Anisé.
Anisé.
Herbacé. Il y a parfois ceux qui n'aiment pas le fenouil en général n'aiment pas le céleri non plus. Est-ce qu'il y aurait une aromatique similaire en termes de goût anisé un peu, hein?
C'est compliqué de définir le céleri.
C'est le goût du céleri.
Et c'est vraiment l'espèce d'opposition qu'on peut avoir. Ceux qui adorent, et moi j'adore, et ceux où le moindre fragment va vraiment les faire reculer à 10 mètres, tellement il est puissant.
Marine Gora, vous aimez le céleri, vous êtes là pour ça.
J'adore le céleri.
D'ailleurs, il est assez présent dans votre très joli livre à travers tout plein de recettes. Alors, soit il a le rôle principal dans vos assiettes, soit c'est carrément un condiment ou un accompagnateur. C'est ça qui est intéressant. Vous avez toujours aimé le céleri ou vous avez de mauvais souvenirs autour de ce légume?
Non, j'ai toujours aimé le céleri. J'ai pas de souvenirs de céleri remoulade à la cantine. Ouais, non, j'ai pas de mauvais souvenirs. Mais c'est vrai que je l'ai redécouvert avec Graham.
Oui.
Ouais.
Vous l'avez redécouvert avec Graham.
Je l'ai redécouvert avec Graham.
Vous le cuisinez comment chez Graham?
Alors je l'avais à la carte. Je faisais une espèce de galette de pommes de terre céleri qui s'appelle un platski. Donc c'est une galette polonaise. Voilà, on l'a un petit peu repimpé avec plein d'herbes fraîches, des épices, du zaatar, des choses comme ça.
On va justement bientôt s'intéresser, figurez-vous, à la cuisine polonaise. On peut vous l'annoncer pour dans les prochaines semaines.
Génial. Et puis, je fais aussi une soupe. Une soupe de tomates. Et ce qui est vraiment génial là-dedans, c'est que on peut utiliser des super bons bocaux, des super bons produits, des tomates en bocal.
Voilà. Alors on arrête tout de suite les auditeurs et les auditrices qui nous diraient quoi, vous cultivez la tomate en plein hiver. Non, attention, on peut utiliser ça, on l'accepte évidemment, de très belles tomates à partir du moment où elles ont été bien cultivées en pleine terre au soleil, en conserve. Hein, la tomate en conserve, c'est accepté pendant l'hiver. Mm-hmm. Et là, en l'occurrence, vous faites cette espèce de soupe qu'on pourrait assimiler ou rapprocher d'un certain cocktail.
Ouais, le Bloody Mary, oui.
Racontez-nous.
Avec des marqueurs un petit peu de la tomate et du céleri finalement, et un petit peu de tabasco, de piment de votre choix finalement.
Voilà, c'est bon.
Le Bloody Mary, bon, c'est avec du tabasco, mais après on peut utiliser tout ce qu'on veut là-dedans. J'ai rajouté des pois chiches.
Là, c'est céleri branche.
Céleri branche, absolument.
Et d'ailleurs, ça croque, c'est délicieux.
Ouais.
Comment vous y prenez ?
Je fais un petit peu. Colorer mes oignons, un petit peu d'ail, mes petits céleris en tronçons, et après je rajoute la conserve, je peux rajouter un petit peu d'eau, et surtout je fais bien infuser mes feuilles de céleri, parce que ça va vraiment amplifier le goût, et je le sers avec un petit peu de crème pour un peu de gourmandise.
On a vraiment la sensation d'un Bloody Mary, mais alors il y a la vodka, qui manque un peu.
Ouais, il manque
le croisement du minestrone
ça
et du Bloody
Mary. Ça pourrait être ça, je crois aussi.
Entre minestrone et Bloody Mary, c'est bien dit, Antoine Gerbel. C'est délicieux.
Délicieux. On enlève un petit peu les fils, s'il y en a, de la branche de céleri.
Oui, je l'épluche aussi. Ouais, exactement.
Mais là, il y a encore un peu de croquant. Et vous évoquez l'umami pour qualifier la saveur, notamment du céleri branche. Et oui, figurez-vous que le céleri branche est l'un des rares légumes, avec la tomate aussi, à comporter de l'umami. Vous savez, cette cinquième saveur qui est liée à la présence de glutamate et qui apporte cette espèce de profondeur et de bien-être en bouche. Et bien là, on est carrément umami avec la tomate et le céleri. C'est ça qui fait que ça fait saliver, quoi. On a envie d'en reprendre, c'est délicieux.
Alors, moi, je trouve génial le côté que ça croque.
Ouais.
Qu'on garde tout ce côté croquant du céleri. Quand même, un super légume pour ça, quoi. Il se révèle, quand on le croque, je trouve. Vraiment, c'est super bon.
Et le céleri se marie bien avec la tomate, notamment dans une autre préparation apéritive, qui serait le jus de tomate, avec le fameux sel au céleri.
Sel au céleri.
Ou sel de céleri.
Ouais.
Alors, c'est un petit peu différent quand même. Le sel au céleri est parfumé avec du céleri. En général, la graine, assez souvent, parce que la graine est très parfumée.
Mm-hmm. On peut aussi ramasser la graine quand on fait monter le légume en fleur.
Voilà. Et le sel de céleri, lui, en général, c'était c'est une préparation condimentaire à base uniquement, théoriquement, de feuilles hachées finement et employées comme du sel. Donc ça, c'est le sel de céleri. Et le sel au céleri, c'est un sel parfumé, en général avec les graines, et qui est vraiment très marqué.
C'est
très,
sûr.
Très bon. Les graines de céleri, elles sont vraiment puissantes.
Mais moi, j'ai sous mon micro un truc absolument extraordinaire. C'est une grande fiole en verre remplie d'une préparation et il y a marqué dessus Gomasio céleri. Vous êtes allé encore plus loin que le sel au céleri ou le sel de céleri. Puisque vous avez une influence japonaise dans cette préparation, racontez-nous, Marine.
Oui, du coup j'ai fait un sel au céleri, si j'ai bien suivi.
Oui, c'est ça, je crois.
En poussant les choses, j'ai rajouté du sésame torréfié et de la fleur de sel. En fait, on va rajouter ça sur tout un tas de préparations, sur un bol de riz. En fait, le gomasio remplace généralement le sel dans la cuisine japonaise.
C'est ça. Au départ, le gomasio, c'est vraiment cette préparation japonaise, cette mixture. Sel fin.
Absolument.
Et graines de sésame.
Ouais.
Et vous, vous emmenez cette préparation dans notre univers de sel au céleri. Comment on fait ça à la maison? C'est simple ou pas?
C'est très simple. C'est super simple.
Racontez-nous.
C'est super simple. Donc, j'ai récupéré mes feuilles de céleri branche. Je les ai fait sécher au four à 90 degrés. On va dire 15-20 minutes. Et ensuite, j'ai pesé mon poids total. J'ai rajouté trois fois le poids en fleur de sel, parce que j'utilise de la fleur de sel, je préfère. Et après, j'ai pesé ce poids total et j'ai rajouté du sésame torréfié. Et j'ai mixé le tout.
C'est extraordinaire. Ça, c'est un vrai truc. Il y a à la fois le côté noisté du sésame, Il y a la profondeur du céleri, il y a évidemment le sel, et ça on peut mettre ça sur des poissons, sur des salades, sur des légumes juste cuits à la vapeur.
Voilà, c'est vraiment la chose qu'on a dans son épicerie, qu'on rajoute en dernière minute, tous ces petits condiments, toutes ces petites épices. Et c'est très simple, c'est du zéro déchet,
c'est complètement addictif, quoi.
Ah oui, qu'est-ce que vous en pensez, Xavier ?
Alors moi je trouve ça vraiment très très bon, mais je suis un grand fan du céleri, j'adore le retrouver comme ça. Mais vous parlez du Japon, ça me fait penser que le céleri branche est un délicieux légume à lacto-fermenté.
Oui.
Et c'est peut-être un usage qu'on oublie, il s'y prête très très bien aussi.
Et la lacto-fermentation, il y a d'ailleurs un tuto sur les réseaux sociaux de France Inter, puisqu'on l'a réalisé avec le chef belge De Gimbre il y a quelques semaines. Il suffit de mettre une préparation à base d'eau et de sel, une saumure en quelque sorte, et on peut conserver lacto-fermenté tout type de légumes, dont le céleri branche, vous avez raison. La recette de gommasio au céleri de Marine Gora à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Effectivement, ça se fait en quelques gestes. Beaucoup de réactions, Elvira Masson, sur nos réseaux sociaux et sur le mail de France Inter.
Et pas de détracteurs, hein. Visiblement, on n'est pas les seuls à adorer le céleri. Nos auditeurs adorent le céleri.
On appréhendait un peu avant cette émission.
On a de quoi écrire un livre de recettes à base de céleri. Avec
Allez, quelques exemples.
Alors, une simple salade vinaigrette de jeunes feuilles de céleri, et c'est divin.
Une salade de feuilles de céleri. Ça, c'est étonnant.
Ouais. Non,
les feuilles du bouquet de céleri branche.
On n'y penserait pas. Un croque-monsieur, dans lequel le pain de mie est remplacé par des tranches de céleri rave d'un bon centimètre blanchies. Et voilà.
Ça alors.
Pas mal, non ?
Parfait. Bah,
ça tombe très bien. Moi, je ne suis pas fan du pain de mie. Donc, à essayer absolument, je pense.
Voilà. Et Marie nous livre une recette de soupe découverte dans un restaurant uruguayen. Un velouté de céleri, champignons, noisettes avec une touche de vanille.
Bien.
C'est décidé, le céleri, je l'adopte. Et sinon, ça c'est pas mal. Alors, j'ai pas le nom de l'auditrice. En tant que bretonne, jamais de moule marinière sans céleri branche. Je suis complètement fan du céleri.
Elle a carrément raison.
Ah oui,
moi un peu de céleri branche. Mais d'ailleurs, de manière générale, dans toutes les préparations, quand on commence son petit hachis, oignon, ail, pour faire un ragoût ou quoi que ce soit, le céleri, il apporte un goût extraordinaire. Il est d'ailleurs à la base de ce fameux sofrito italien, qui démarre également beaucoup de plats mijotés, de plats en cocotte. Le céleri branche, légume indispensable en cuisine. Comment se marie le céleri branche et le céleri rave? Avec nos copains les vins, la réponse, ou en tout cas des éléments de réponse, avec Antoine Gerbel.
On va déguster sur France Inter.
Alors sur le papier, c'est un peu piégeant comme question, parce que le céleri, moi j'insiste quand même, le premier céleri que j'ai vraiment mangé, c'est celui de la cantine. Et il n'était pas bon, aujourd'hui je fais du bon céleri rémoulade et je suis réconcilié avec ce légume. Et surtout,
on va en parler dans un instant du céleri rémoulade.
Et surtout, on a tous ces chefs qui se sont réappropriés ces légumes racinaires et on s'en régale, plutôt que de manger des tomates au mois de février, on mange de bons céleri. Alors quand on regarde la littérature, c'était dans les livres jadis, aujourd'hui c'est sur Google, on lit beaucoup d'idioties du genre le céleri s'accorde avec le fitou, le médoc, le saint-chinian, le sylvaner, le côte de Blaye. Je pense qu'il manque juste un raton laveur. C'est pas très sérieux tout ça. Et surtout, je pense que ça a été pensé et recopié par une époque où vraiment le céleri était vraiment accompagné seulement. Et c'était surtout dans le cru ou dans des points de cuisson. Alors le céleri, on vient d'en parler, ça a du caractère, ça a du goût, c'est corsé. Donc bien évidemment, on va s'orienter vers plutôt des blancs, et plutôt des blancs qui ont cette structure, quelque chose d'assez épicé. On pense au sel de céleri, justement, si vous avez ce goût-là, essayez d'imaginer cette piste un peu comme une épice quand vous travaillez à la cuisine. Alors, des blancs dominants, j'ai pas dit mâle blanc, j'ai dit blanc dominant, ils sont aujourd'hui complètement en renaissance grâce à la Méditerranée, au pourtour méditerranéen. Alors, je veux parler en France des Côtes du Rhône, des Provences, des Corses, du Roussillon, du Languedoc, mais je voudrais associer l'Espagne, associer la Grèce, l'Italie, lait blanc. Je vous rappelle que avant le phylloxéra, on l'a déjà dit à ce micro, c'est la grande couleur méditerranéenne. Le roux, le Grand Sud a été rougi après le phylloxéra pour faire du rouge pour les soldats, pour les paysans, pour les travailleurs dans les mines, du vin d'Achère à Canon. Les grands historiens vous l'expliquent très très bien. Et on retrouve aujourd'hui, du côté des vignerons, une envie d'aller rechercher un petit peu leur patrimoine. Alors on les a appelés un peu cépages oubliés. Moi, je préfère aujourd'hui le terme de cépages patrimoniaux. C'est plus simple parce que c'est une propriété transmise par les ancêtres, tout simplement. Et la vigne, c'est une très très longue histoire de transmission. Alors, dans le sud, on trouve, bien évidemment, historiquement, des cépages blancs encore présents, le grenache, le vermentino, la roussanne, le viognier, mais on ouvre aujourd'hui des grimoires, on va, comme certains vignerons, aller voir les compas, vous savez, c'est l'ancêtre du cadastre avant Napoléon, et on regarde les noms marqués. Et là, on trouve des noms incroyables, parce qu'on trouve la Régnan, le Yade Blanc, la Grosse Clairette et le Picardan.
Des cépages qu'on avait totalement oubliés, ou presque.
Exactement. Alors maintenant, on va se mettre le nez dans votre... Oh là, vous allez mettre le nez dans votre verre.
Moi, j'ai pris de l'avance, hein. Je peux vous dire que... C'est quelque chose.
Alors, moi, j'ai cherché d'abord un vin qui allait bien avec le céleri, qui avait du poids, mais je voulais trouver quelque chose qui avait une belle histoire. Alors là, on est... Alors, qu'en pensez-vous déjà? Goûtez, dites-moi.
Moi, je suis vraiment très fan. Il y a un nez très expressif.
C'est très expressif. On a un peu des arômes, quand on sait que c'est un vin du Sud, on imagine c'est un peu plus au Nord quand même, un peu la poire, un peu les notes un petit peu de coin. Et puis après, c'est assez sec. C'est presque un petit peu neutre. Et c'est, on revient sur l'umami, on revient sur ce sentiment d'avoir de la texture plus qu'un enrobage aromatique. Et c'était un peu ça les blancs du Sud, hein, parce qu'ils n'étaient pas spécifiquement faits que pour faire des blancs, on les mélangeait aussi un peu avec les rouges. Et le Picardin que vous avez dans votre verre, c'est un des fameux 13 cépages de Châteauneuf-du-Pape, ce conservatoire historique où on retrouve à peu près toutes les grandes familles de cépages méditerranéens. Et il a quasiment disparu. Mais quand je dis disparu, c'est que vraiment, le vigneron qui nous présente cette cuvée, il m'a dit, j'ai doublé la production mondiale de Picardin. Il en a planté 0,5 hectare. Donc, vous voyez qu'on est... Donc aujourd'hui, ce Picardin, bon, beaucoup de gens s'y intéressent. Hein, des vignerons, on commence à en planter en petite dose. Mais voilà, aujourd'hui, il doit y avoir 3 ou 4 hectares de plantés. Peut-être au moment où je parle, il y en a peut-être un demi-hectare en train d'être planté. Mais on est vraiment dans cette mesure-là. Mais c'est pas pour faire du small is beautiful. C'est vraiment pour montrer comment les vignerons se réapproprient quelque chose. Le Picardin, donc, il est fait aussi, c'est ça qui est très intéressant, ce vignoble, il est à côté de Montpellier, à Lunel, historiquement un vignoble de muscat, des muscats qui aujourd'hui ne sont pas mûrs à moins de 14,5, 15, 15 degrés et demi, c'est ça le gros problème qu'on a avec l'évolution du climat. Donc, ce sont des jeunes vignerons qui ont arraché une partie des muscats de la propriété familiale et ont arraché les parties les plus sudistes, là où vraiment ça, et ils ont été chercher des cépages. Ils l'ont planté là. Et ce Picardin, il fait 12 degrés et demi récolté, voilà, en pleine maturité. Ça garde une assez belle acidité.
Ah ouais.
Et c'est ça qui est vraiment, vraiment très intéressant. Alors, je dis deux mots sur le domaine, ça s'appelle Ampelus. Ce sont deux jeunes, alors lui, il est ingénieur agronome, il a commencé il était dans l'horticulture, il est à Angers, et puis le grand-père a cédé son domaine qui portait à la coopérative, lui dit, est-ce que tu veux relever le défi? Alors il se voyait pas du tout travailler comme ça, et puis il s'est dit, allez, j'y vais. Et avec ça, alors il s'appelle Thibaut Vermillard, sa compagne s'appelle Genia Vaslijeva, j'espère que j'ai pas trompé, c'est lituanien, pardon si j'ai écorché son nom. Depuis 2012, ils ont reconstruit intégralement leur vignoble et ils vous proposent des vins comme ça sous cette étiquette. Alors ça coûte un petit peu cher, ça coûte 20 euros chez les cavistes. Donc ça va, c'est très très rare. Et puis on fait vraiment une très très belle expérience. D'autres cépages comme ça sont mis en avant. Je vous parle juste d'un rendez-vous qui a lieu le 2 et 3 mai dans le centre historique de Montpellier. Et un symposium qui est professionnel, mais le mardi après-midi c'est ouvert au public. Où vous allez retrouver tous les producteurs qui sont en train de mettre en avant ces cépages exceptionnels. Ce vin, je l'ai acheté à Paris dans une cave qui s'appelle Le Vin qui parle. Il y a trois caves. Et sur le site de France Inter de l'émission Va déguster, j'ai cité tous les cavistes où on trouve ce sympathique Picardin du domaine Ampelus.
Vous dites Picardon, hein ?
Picardin.
C'est Picardin.
P-I-C-A-R-D-A-N.
Et ça se prononce Picardin.
Voilà.
Très bien. Eh bien, écoutez, je me le tiens pour dit. En tout cas, c'est une très belle découverte dans nos verres. Un grand merci, Antoine Gerbel. Dans un instant, leçon de rémoulade. Pas d'émission sur le céleri, sans le fameux céleri rémoulade, évidemment. Et puis d'autres découvertes botaniques avec notre ami Xavier Mathias, notamment sur un céleri qu'on n'a pas évoqué. Vous allez nous en dire un mot dans un instant. C'est le céleri à couper. Il est ni branche, ni rave. C'est encore autre chose, on va voir ça dans un instant, mais pour l'instant, on écoute le dernier titre de Loran Cahen.
Quand je regarde dehors, je vois des montagnes la fièvre noire. J'aimerais te mordre plutôt. Il neige sur Labrador. Les murs me font perdre. Fièvre noire. J'aimerais te mordre plutôt. Dépêcher pour toi les oiseaux. Ma fenêtre est close et j'ai le vague là.
Évidemment, pardon d'avoir écorché son prénom, d'autant qu'on aime beaucoup ce qu'elle fait. Et c'était le titre La Fièvre Noire. Nous, aujourd'hui, dans On va déguster, c'est plutôt La Fièvre Blanche pour le céleri rave, mais également le céleri branche. Oui, le céleri vous sourit aujourd'hui. Et nous sommes avec Xavier Mathias, notre pote du potager, Marine Gora, la patronne de Gramme, un coffee shop qu'on aime beaucoup. Vous avez insisté pour dire que c'était vraiment un très bon coffee shop.
Ah oui, je trouve ça délicieux, inspiré, avec une cuisine voyageuse, des super produits, une très grande à la fois simplicité. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup la cuisine de Marine.
Allez y faire un tour à Paris, ouais, vous ne serez pas déçus dans le 3e arrondissement. Et à défaut, il y a évidemment ce beau livre, ce carnet de recettes, formidable, inspiré, avec des influences multiples et beaucoup de choses, notamment autour des légumes. Hein. Vous êtes très adepte du végétal.
Oui, complètement. Ouais. Et le céleri s'y prête très, très bien.
C'est ça.
Ouais. Parce qu'il est très parfumé, les végétariens peuvent l'utiliser aussi en steak, dans des sandwichs pour remplacer un morceau de viande, quoi.
Et bien justement, on a encore plein de réactions de nos auditeurs.
Marine nous écrit de Rennes et elle nous explique qu'elle utilise le céleri façon gratin dauphinois en remplaçant les pommes de terre par du céleri.
En voilà une bonne idée.
Ah ouais, ça c'est génial. Ça c'est une super idée.
Claire en Ardèche cuisine son céleri rave au four. Elle enlève la peau, elle le coupe en tranches d'un demi centimètre d'épaisseur. Elle dispose ses tranches sur une plaque au four. Elle badigeonne un mélange d'huile d'olive et d'épices. Elle adore avec du cumin, du gingembre râpé et des zestes de citron. Et hop, au four, 180 degrés, jusqu'à ce que le céleri soit tendre et légèrement rabougri.
Ça, c'est une bonne idée, mais on peut aussi le cuire entier, ce céleri boule. Mmh. Comment vous y prenez, Marine Gora?
On peut s'aider de papier aluminium.
Oui.
L'envelopper, pardon.
Sans l'éplucher,
comme ça c'est vraiment une astuce de fainéant. Et on l'oublie finalement, 1h30, 2h selon la taille. On peut pointer une petite pointe de couteau, un petit pic à brochette, si ça rentre, comme un gâteau en fait.
Quel thermostat
180, 200, si on est pressé ou pas.
Moi, ça m'arrive de faire ça, et ensuite on coupe des steaks, et vous servez ça avec un peu de gorgonzola fondu à la poêle, une petite touche de beurre et de crème fraîche, ça vous fait une sauce délicieuse et vous avez vraiment un steak végétal.
En parlant de gorgonzola, Christophe nous rappelle l'existence d'une recette avec un autre fromage bleu, une recette anglaise, une recette de soupe au céleri et Stilton.
Bien joué, ça doit plaire à Elvira. Elle est déjà en train de sourire. Elle a le rose aux joues, je pense qu'elle ne va pas louper cette recette. Est-ce qu'on peut remercier notre auditeur
Christophe?
Très bonne idée, merci Christophe. Vous revenez quand vous voulez sur les réseaux sociaux de France Inter. Allez, un céleri qui n'est ni branche ni rave, c'est une autre, c'est une sous-espèce en fait.
Oui, en fait, c'est le troisième. On a trois types de céleri, donc céleri branche, céleri rave, et toujours issu de la même plante des marais, on en a un troisième, c'est le céleri à couper.
Ça alors.
Dont il y a plusieurs exemples de variétés. Autrefois, on faisait le pipe creuse de maline, par exemple, et on peut aussi faire le parcel. Donc c'est tout à fait étonnant parce que ça pulvérise en céleri, c'est très bien, mais sans le côté brûlant que peut avoir la livèche. La livèche, c'est pas facile à employer, hein. Je trouve que dans un plat, elle est surprésente. Alors que ce céleri à couper, c'est vraiment, vraiment un régal. Moi, s'il a un petit défaut, c'est que ce que j'adore dans le céleri rave, c'est le côté noix. Je trouve qu'il y a une saveur un peu de noix et on l'a pas dans ce céleri à couper. Mais vraiment, c'est une petite merveille.
Le céleri à couper, c'est un peu une herbe aromatique.
Une herbe aromatique, voilà, qui est plus présente que le persil hein, au niveau saveur. Attention, hein, ça tape un petit peu plus fort. Moi, je trouve ça assez génial. Je pensais aux moules marinières tout à l'heure de notre auditrice. Je pense que du céleri à couper lui ferait très plaisir aussi.
Et pour monter un peu dans le poivre et les épices, il y a aussi effectivement, comme vous le disiez, la livèche ou des montagnes. Alors, on la trouve à l'état spontané, paraît-il, dans nos montagnes, dans les Alpes, dans le Massif central, dans les Pyrénées. Elle a un drôle de surnom qui dit quelque chose de son goût.
Et oui, on l'appelle herbe à magie.
Mais alors, magie, comment vous écrivez magie ?
M-A-2-G-I.
C'est ça.
Donc, comme cette marque qu'on connaît tous de bouillon cube.
D'où le côté umami.
Voilà. Puisque, il faudrait vérifier, mais il me semble bien que cette marque a commencé son action, son travail, avec cette herbe très, très particulière, dont on fait aussi une huile essentielle. Attention, il y a de l'huile essentielle hein, dans le céleri, particulièrement aussi dans ses graines, et on peut tout à fait cultiver et cuisiner cette huile essentielle. Ça, alors, celle de la livèche est très 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 puissante, forte, hein, très, attention. Très, très forte. Et celle du céleri est quand même un petit peu plus tranquille.
Avec modération, mais ça est intéressant, la graine, l'huile essentielle, les branches, le tubercule, enfin voilà, ouais. Le céleri, dans tous ses recoins, c'est très intéressant, on en vient évidemment au céleri rémoulade, très à la mode en ce moment. Le céleri rémoulade, il revient sur les bons bistrots parisiens et dans nos régions, évidemment. La première coupe du monde du céleri rémoulade sera organisée à Paris le 14 mars avec Yannick Aleno en président du jury. C'est une belle initiative de Jean-François Mallet, accompagné du journaliste Ezekiel Zera. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, hein. La coupe du monde de céleri rémoulade. J'ai hâte de connaître les résultats. Et vous nous préparez, d'ailleurs, je pense que vous pouvez concourir parce que vous nous préparez une version tout à fait étonnante, légèrement modernisée. Expliquez-nous, Marine Gora.
Eh bien, j'ai pensé à un petit céleri aux accents gribiche.
Ah, ouais. Alors là, oulala, là vous fusionnez carrément.
Voilà, deux classiques.
Deux recettes totémiques des bistrots parisiens.
Voilà. Bah, finalement, on se rend compte que les marqueurs sont un petit peu similaires. On a la mayonnaise, moutardée, les câpres et les petites herbes fraîches qu'on va rajouter, estragon, persil, cerfeuil, avec ce petit goût vinaigré et puis des œufs dont on va utiliser les jaunes d'œufs pour monter la mayonnaise.
Alors, céleri rémoulade, on part du principe que l'on a râpé cru un céleri rave.
Oui. Ouais.
Un peu comme des carottes râpées, mais en général, le gabarit de taille est un peu plus épais. Hein. Il faut qu'on ait quand même un peu de mâche, faut que ça croque un peu sous la dent. Et ce qu'on appelle rémoulade, et ça c'est intéressant, à la base, la rémoulade, la définition en tout cas dans le livre d'Auguste Escoffier, c'est une mayonnaise moutardée. Oui, car à l'origine, la mayonnaise n'était pas moutardée. Mayonnaise, c'était sans moutarde, et rémoulade, la sauce rémoulade, c'était une mayonnaise avec de la moutarde de Dijon. Mmh. Donc, moutarde de Dijon classique, auquel vous ajoutez tous les marqueurs, les éléments de la sauce gribiche.
Voilà.
On peut les détailler ?
Alors, donc, les estragons, persil, cerfeuil.
Il y a des capres ?
Des capres, des cornichons, donc les œufs dont on a parlé.
Des œufs durs qui sont émiettés ?
Qui sont émiettés, qui sont un petit peu écrasés à la fourchette grossièrement. Et puis, du poivre, quand même beaucoup de poivre. De la moutarde en graines. C'est un petit peu important pour avoir un petit peu de mâche, quand même.
Mmh. Délicieux.
Hein. C'est délicieux, c'est frais.
Les herbes. Voilà.
Tout à fait.
Et ce plat est disposé sur...
Sur une tranche de pain.
Ah,
ah.
Alors, on va vous arrêter là. Pardon, je parle un peu la bouche pleine.
Mais ça tombe tellement bien, moi je ne savais pas. Hein.
Les planètes sont alignées aujourd'hui,
j'ai
en
pas
ce
pu
dimanche.
M'en empêcher.
Car c'est votre trait d'union, votre point commun. Mmh. La tranche de pain ou la tartine, comment appeler ça ? On va en parler évidemment avec Elvira Masson.
On va déguster. Sur France Inter.
On peut dire qu'on partage un certain tropisme pour la tartine. Il y a quelques jours, outre cette tartine absolument merveilleuse qu'on vient de goûter, j'ai vu passer chez Gramme une tartine de pain aux céréales, ricotta fumée, pousse de brocoli brûlé, œuf mollet et salsa blette amande. Je suis restée bloquée sur cette photo, mais je voulais absolument manger cette chose-là, c'était merveilleux. Et c'est la tartine salée, dans son acception québécoise de sandwich ouvert. Et
ah c'est j'aime bien la définition de sandwich ouvert.
C'est l'art tout simple de faire un repas absolument merveilleux avec peu de choses. C'est une cuisine très modeste, hein, l'art de la tartine. De penser le pain comme un support. Je sais que Xavier est très fan aussi de repas tartine.
Ah oui, 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 parce que c'est les repas complets par définition. Oui. Pardonnez-moi, j'ai la bouche pleine. Mais
ce céleri rémoulade Glibiche, c'est quelque chose.
Et la tartine est méritante, hein. Elle ne paye pas de mine, elle est d'extraction modeste. Le mot date de la fin du XVIe siècle. D'ailleurs, une des premières images connues de tartine remonte au XVIe siècle à un tableau de Bruegel l'Ancien qui s'appelle le repas de noces, qui représente un repas réunissant des paysans dans une salle bondée. Et au premier plan, on voit l'enfant à la tartine sur les genoux en train de lécher son index. L'ancêtre de la tartine est la rôtie, soit une tranche de pain rôti ou frite qui accompagnait les soupes, les ragoûts et justement les rôtis. C'est de là que vient le mot anglais « toast », traduction donc de tartine, venant lui-même de l'ancien français « toaster », T-O-S-T, c'est-à-dire « rôtir ». Porter un toast, d'ailleurs, renvoie à la coutume qui voulait qu'on trempe la rôtie dans une coupe de vin avant de boire à la santé d'un convive.
Bon appétit.
Ce n'est qu'au XXe siècle que le mot tartine s'impose vraiment dans la langue de tous les jours. En Suède, le mot toast,
on y vient,
qui pourtant est un mot anglais, d'origine française, le mot toast figure à la carte de nombreux bistrots de cuisine traditionnelle, où l'on trouve ce qui est, selon moi, une des entrées tartines salées les plus délicieuses du monde. Je pèse mes mots. Il s'appelle le toast Skorgen. Ah. Alors Skorgen est une ville portuaire qui est située au nord du Danemark, pas de Suède. Et pourtant, c'est une recette suédoise qui a été créée dans les années 50 par un chef et restaurateur star à Stockholm, formé à Paris, formé chez Maxim's, qui s'appelait Tore Wretman. Et c'est presque un plat national. Ce serait un peu, j'allais dire, le céleri rémoulade suédois, tellement c'est un plat de bistrot classique qu'on croise un peu partout. Il s'agit d'une tranche de pain brioché ou de pain de mie. Pas de pain de seigle comme vous, Marine, parce que je pense qu'à l'époque, dans les années 50, le pain de seigle était considéré comme vraiment d'extraction paysanne. Or, Tore Wretman, il a voulu créer comme une entrée un peu chic, d'où un pain plutôt beurré. Ce pain brioché est beurré, saisi dessus-dessous à la poêle. On trouve des variantes avec d'autres pains. Il est recouvert d'un mélange qu'on appelle, c'est le mot que je disais en début d'émission, skorgenröra. Et c'est précisément une rémoulade de crevettes et parfois de chair de crabe, soit donc cette mayonnaise moutardée qu'évoquait François-Régis, avec un peu d'aneth, parfois un peu d'œuf de poisson, des œufs d'ablette, on utilise souvent en Suède. Moi, j'y ai mis, donc, outre des petites crevettes grises, qui sont pas très très courantes en Suède, hein, c'est plutôt des grosses crevettes de la Baltique.
Qu'est-ce que c'est, hein ?
J'ai détendu un tout petit peu cette sauce rémoulade avec un peu de yaourt pour l'alléger un peu. Et j'ai mis du réfort, parce que pour moi, bon, bah, quand on fait un truc suédois, on met du réfort, hein. Et j'ai ajouté du céleri rave, détaillé en mirepoix. Xavier, il est là, votre toast. Maintenant que vous avez fini la tartine de Marie.
Ça, c'est un gros délire.
C'est pas mal, hein, voilà. Bah, c'est le toast Skagen un peu réinventé avec un peu de céleri rave en mirepoix. Et un peu de réfort en plus. Et voilà, mon toast Skagen trafiqué au céleri.
Il y a un cousinage avec ce qu'on appelle au Danemark le smørrebrød. Oui.
Mais smørrebrød, c'est un mot un peu générique pour sandwich ouvert, en fait. Hein.
Mais ça, c'est quelque chose. Ah, il y a le moelleux et le confort de ce petit matelas de pain de mie,
vrai,
bien
c'est
épais.
C'est un peu le lobster roll avec des crevettes à la scandinave.
Moi, je le mets au-dessus du lobster roll.
Moins écœurant, peut-être.
Avec le côté très, très long et profond de ces petites crevettes. Et puis surtout, la sauce très confortable. Mm-hmm. Mayonnaise un peu détendue.
Mayonnaise
le croquant du céleri. Oui.
Détendu au yaourt avec un peu de réfort, quand même, parce que j'avais peur que ce soit un peu écœurant. Le pain brioché peut être un peu écœurant.
Ça vaut des points, hein, cette recette.
Bah, le coup de génie, c'est le réfort, je trouve.
Ah ouais.
Le réfort qui apporte vraiment un petit piquant. Je suis un peu dans ma marotte du légume.
Et de la racine.
Mais pour moi, il est injustement oublié. Et là, il tombe pile, quoi.
Ce qui est drôle, c'est qu'en suédois, réfort se dit pepparrot. Ce qui veut dire racine de poivre.
Ah ouais.
C'est marrant, hein.
C'est exactement ça.
Extraordinaire, hein. Franchement, bravo, plein de réactions.
Merci. C'était un cours de suédois,
ah ouais. Encore une fois. Et la recette est en ligne, évidemment, sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Les réactions coulent à flot sur le mail de l'émission et sur nos réseaux sociaux. Bonjour, alors là c'est Dominique. Ma belle-mère avait un pied de céleri qu'on appelle céleri perpétuel ou céleri chinois. De quoi s'agit-il? Est-ce que Xavier peut nous éclairer ou...
Oui, bah, c'est le piège des noms vernaculaires. On peut la l'appeler comme on veut, en fait, la plante, hein, on a le droit.
Mais quand on dit perpétuel, il y a l'idée que...
Par contre, voilà, céleri perpétuel, en général, c'est la livèche quand même, c'est la hache des montagnes, cette fois. Donc, il y a ce parfum céleri très très fort, très puissant. Il en faut très peu pour cuisiner, pour parfumer un potage, par exemple. L'avantage, c'est que si vous avez un pied de cette livèche, de ce céleri perpétuel, vous en avez assez pour tout le village dans lequel vous habitez, parce que une feuille, ça suffit.
Très bien. Attention, ça nous vient de Belgique. Annick, merci pour l'émission. Je fais des frites de céleri rave. Je coupe des bâtons de 1 cm de côté, et bah exactement comme la fameuse frite de pommes de terre, et je fais frire dans de l'huile. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie, Marine Gora? Les frites de céleri?
Ça m'a l'air appétissant, ça change de la patate.
Très bien. Je le coupe en cubes, nous dit Modula. Je connais pas exactement son prénom. Je le fais revenir dans un peu d'huile et ou graisse de canard, exactement comme des pommes de terre sautées. C'est Monique. Mmh. Et ça se passe très bien. Là aussi, possible?
Ah oui.
Elvira?
Je peux pas, j'ai la bouche pleine.
D'accord, elle me tend les feuilles, elle est en train de manger sa tartine, sachant qu'elle m'a piqué mon assiette que j'avais pas fini. Non, mais je rêve. Vous aimez beaucoup vos recettes, en fait.
Celle de Marine, c'est bon, que j'appelle.
J'ai piqué la sienne, c'est fait.
Bonjour, je voudrais vous faire partager. Ah, ça, c'est intéressant. Une recette de risotto où le céleri remplace le riz. Les grands chefs appellent même ça le céleri-zotto, appréciez le jeu de mots. On remplace le riz par des petits dés de céleri. Il y a du travail de découpe, mais ça en vaut vraiment la chandelle. Comment on pourrait s'y prendre pour un céleri-zotto, Marine Gora?
On pourrait faire un bouillon végétal avec justement les petites feuilles de céleri, le céleri, des carottes, des oignons. On fait un bon bouillon, on fait bien dorer nos légumes.
Oui.
On mouille, on laisse un petit peu réduire. Ensuite, on utilise ce bouillon...
Pour nourrir
pour nourrir la découpe de notre céleri.
Vous le couperiez dans quelle section? Un demi-centimètre? Des petits dés?
Ah oui, des petits dés. Bon, après, il y a du travail, donc il faudrait faire ça pour deux personnes, peut-être, mais...
Et donc, le principe, ce sera vraiment de cuire ces petits dés de céleri rave
et
dans ce bouillon au fur et à mesure, comme la stratégie d'un risotto.
Absolument.
Et ensuite, on fait la mantecatura, c'est-à-dire le fait de graisser ce risotto. Et là, vous utiliseriez quelle matière grasse? Ça peut être du parmesan?
Oui, du parmesan, du pecorino.
Et parmesan et céleri, ça fonctionne bien.
Oui,
quand même.
Ouais, je pense que c'est pas mal. Rajouter un peu de noisette torréfiée en finition. Bon, là, on a un truc très, très réconfortant.
Je vous propose, Marine Gora, de revenir au céleri branche, car vous allez nous révéler, et ça, c'est une recette que je vais essayer, puisque c'est votre recette du dimanche. Moi aussi, je vais l'essayer ce soir. Ce sont des pastas, très simples à faire, délicieuses, où le céleri branche vient mettre son grain de sel.
Alors, c'est une recette que j'adore parce que finalement, j'ai toujours une saucisse dans mon frigo, au congélateur ou quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose où j'ai pas besoin d'aller faire les courses. Donc, c'est très simple. Carottes, oignons, céleri branche. On fait tout rissoler. On rajoute la chair à saucisse. On fait bien cuire tout ça. Ensuite, on fait cuire des pâtes. On va récupérer un peu d'eau de cuisson. On arrose, on laisse un petit peu réduire. Ça va nous faire une bonne petite sauce, un petit peu bouillonnée. Et ensuite, on mélange le tout. Et on sert avec beaucoup de poivre et du parmesan.
Ça, c'est une bonne idée. Vous utilisez quel format de pâtes?
Ce qu'on veut, à part des spaghettis, des pâtes longues et fines. Voilà, des rigatoni, par exemple.
Très bien. Comment ça se passe, le céleri à la maison, Xavier Mathias?
Alors, c'est toujours un défi. Donc, nous, il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect potager. Sera-t-il réussi? Parce qu'attention, c'est pas si facile. Et sinon, le céleri rave, vraiment, c'est le cuir aussi bêtement, cuisson vapeur. Coupé en morceaux et vous le mettez mais dans tous les plats que vous préparez et il est toujours là, il est toujours tendre et il a quand même ce côté céleri qui est bien marqué, qui est bien présent. C'est vraiment une petite merveille quand même, le céleri rave, je trouve.
Encore une petite réaction.
Une dernière petite recette, céleri branche cette fois, de Cécile de Montélimar, qui fait une salade de céleri branche, côte et feuilles, avec de la betterave crue ou cuite. Elle ajoute des anchois, des câpres, ciboulette, une petite vinaigrette. Je la fais à l'avance pour pas mettre aux arômes de se diffuser.
Très bien, ça c'est une bonne idée. Et puis certains auditeurs de par chez vous, Val-de-Loire, cher Xavier, nous signalent. Alors, s'ils ont été attentifs, on l'a évoqué, puisque j'ai fait un reportage sur cette vieille variété de céleri. On l'a évoqué notamment dans l'accroche sonore de cette émission. C'est une variété ancienne, le céleri violet de Tours. Vous nous en dites un mot?
Alors oui, alors c'est comme beaucoup de variétés anciennes en fait, c'est des variétés qui sont fin 19e, qui étaient plutôt destinées à la production maraîchère. C'est un très très bon céleri branche qui malheureusement, il est sublime à voir et malheureusement, il va perdre sa couleur à la cuisson, cette belle couleur parme.
Mais alors il est très, moi j'ai déjà eu l'occasion de le tester notamment chez le chef Christophe Hay, chef étoilé du côté de pas loin de Blois, il est très aromatique hein.
Ah oui, il est, oui, c'était vraiment des sélections qui étaient faites pour voilà, pour avoir un peu le haut du panier sur les goûts.
Et puis évidemment, des auditeurs nous signalent la fameuse salade Waldorf, une recette inventée par le maître d'hôtel du Waldorf Astoria, le célèbre palace new-yorkais à la fin du 19e siècle. J'avais fait une recette en vidéo justement avec les équipes de France Inter il y a quelques semaines. Il y a des noix, des pommes, du céleri rave, c'est délicieux et la vidéo est à retrouver sur franceinter.fr à la page on va déguster. Manuel d'une cuisine parisienne, Gramme, formidable livre qu'on vous recommande chaudement, signé Marine Gora et Romain Tellier, photographie de The Social Food, vraiment très belle photo, hein. Bravo à eux. C'est chez First Edition qui fait d'ailleurs une très belle mue, cette maison d'édition fait d'excellents bouquins. La semaine prochaine, on s'intéresse à la petite graine bretonne qui monte, qu'est-ce que ça pourrait être ?
Sarrasin.
Bravo, sarrasin, c'est le sarrasin avec une leçon de galette de sarrasin en live. Jérôme Gagnès et Laurent Delmas seront dans les fauteuils des chroniqueurs à dimanche prochain, si vous avez encore faim.